Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Troisième entretien de cette série Au bon plaisir de Dieu, l'évangile du bien-être aux éditions du CERF. Et j'ai la joie de recevoir au micro frère Sylvain de Toc, dominicain. Bonjour frère Sylvain.
Bonjour Nathalie.
Alors on va rester avec vous dans la bonne humeur.
Bonne humeur dominicaine.
Dominicaine, la joie aussi peut-être, cette joie profonde de Saint-Dominique.
Tout à fait.
Saint-Dominique est avec vous et avec nous. Alors j'en reviens un peu, on progresse dans cette série, en ce milieu de semaine. Dans une partie centrale de votre livre, vous invitez à détoxifier la foi, un mot fort, et vous souriez comme si certaines représentations pouvaient empoisonner la vie spirituelle. Alors quels sont selon vous les poisons qui ont abîmé l'image de la foi chrétienne dans nos sociétés ou aussi dans nos vies personnelles, frère Sylvain?
Je souris Nathalie parce que...
Souriez, en fait, c'est la bonne humeur aussi.
Oui, et puis c'est aussi un jeu de mots...
Et vous avez beaucoup de jeux de mots aussi.
Oui, il y a beaucoup d'humour dans mes livres, tout le monde me le dit, mais cette partie détoxifier la foi, évidemment, je m'appelle Sylvain de Toc, et un jour, quelqu'un m'a dit, après m'avoir écouté dans une présentation de livre, de Toc, il détoxifie la foi. Donc, si je détoxifie la foi des gens, alors là, je suis extrêmement content parce que ça veut dire que tout mon ministère d'enseignement, de prédication sert à quelque chose. Et effectivement, comme j'enseigne à partir des pères de l'Église, qui eux-mêmes étaient de fervents lecteurs de la Bible, ils ont dû faire face, ces gens-là, aux premières hérésies qui ont empoisonné la vie chrétienne. Des hérésies sur Dieu, sur le Christ, mais aussi sur l'être humain. Et en particulier, il y a un poison dans la foi, ce que moi j'appelle un cancer de la foi, voyez, qui métastase indéfiniment dans la vie chrétienne, et le démon s'agite pour accompagner malheureusement cette diffusion, cette toxicité des fausses croyances, vous voyez, des caricatures de ce qu'est l'évangile, de ce qu'est la foi chrétienne. Et malheureusement, il faut bien le dire, à travers les siècles, les communautés chrétiennes se sont repassées comme ça, un petit peu comme quand on parle aujourd'hui du transgénérationnel, de fausses croyances, et en particulier la fausse croyance selon laquelle on a été créé pour souffrir, on est là sur la terre pour en baver, pour faire pénitence, comme si la vie chrétienne, au fond, c'était un sempiternel combat spirituel, une sempiternelle ascension vers la vie du ciel, un peu sanglante, à la force
une
du poignet.
Une crucifixion permanente.
Des larmes, de la sueur et du sang, quoi, à la Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est d'abord accueillir une parole qui nous sauve, une parole qui est une bonne nouvelle. Donc, j'en parle dès le début du livre, une parole qui nous veut du bien, envoyée par quelqu'un qui nous veut du bien, qui veut libérer nos capacités à fleurir et à fructifier dans l'être. Il nous a façonnés pour ça, le Seigneur. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance pour entrer en relation avec lui. Et donc, tout ce qui va perturber ce cheminement dans l'amitié avec Dieu, il faut essayer de se pencher sur ces éléments-là et de se dire, voilà, d'où ça vient. C'est un petit peu comme des mauvaises herbes, c'est dans la parabole de Jésus, le bon grain est l'ivraie. Le démon a semé aussi dans les croyances, y compris les croyances de nos communautés chrétiennes, des hérésies, des fausses croyances, des fausses routes. Alors j'essaye, dans cette partie, détoxifier la foi, de cerner quelques-unes de ces fausses croyances qui nous font du mal. Et en particulier, vous avez remarqué, je m'attends à quelques-unes de ces fausses croyances qui ont métastasé au XVIIe siècle, au XIXe siècle, le jansénisme, des idées très sombres sur la vie éternelle, cette impression que très peu de gens seront sauvés, que c'est très très dur au fond d'être sauvé, voire impossible. Mais Jésus nous dit dans l'Évangile qu'aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible.
Au fond, vous revenez, parce que vous êtes spécialisé aussi dans les pères de l'Église et puis la Sainte Écriture, cette Bible, cette parole de Dieu, au fond, c'est une parole de vie, c'est l'homme debout que Dieu veut faire naître. Et là, je pense aux auditeurs qui vous écoutent en ce troisième jour de cette série. Dieu veut faire un miracle dans la vie de chacun.
Et bien sûr,
c'est ça, Dieu, c'est l'homme vivant.
La parole de Dieu, elle vient pour nous réconcilier avec la source de notre existence. Comme si, quand, vous voyez, le péché originel, au fond, une manière de l'expliquer, il y a d'autres manières, mais l'une des manières de l'expliquer, c'est de se dire que, voilà, quand nous naissons, nous venons à l'existence, nous sommes normalement vierges de tout, et en fait, on se rend compte qu'en nous, cette communion avec Dieu et avec les autres, eh ben, elle n'est pas facile, que ça ne va pas de soi, que c'est comme si... C'est presque pas notre pente naturelle. Il faut que quelque chose se passe en nous pour nous réconcilier avec la vie, nous réconcilier avec la joie d'exister, le bonheur de recevoir l'existence. Et c'est aussi pour cela que Jésus vient, pour nous remettre en communion avec le Père. Hein, nous sortons des mains du Père et nous peinons à être en communion avec lui. Eh bien, Jésus envoie l'Esprit. Il vient et il fait venir l'Esprit dans nos cœurs pour que nous retrouvions cette harmonie, cette unité avec Dieu, cette communion qui a été perdue mystérieusement dans l'histoire de la communauté terrestre.
Hein ? Vous avez joliment parlé de réconciliation aussi avec cette vie qui est donnée, avec cet accueil de cette vie. Et parfois, il y a rupture, oui. Et puis on est dans un monde de confusion, un monde qui effraie beaucoup de personnes aujourd'hui, oui. où la peur l'emporte, hein, sur la confiance.
Oui.
Et on est dans la méfiance, et en fait, on n'est plus dans la confiance. Et la peur va gagner.
Et à partir du moment où on patauge dans la peur comme ça, on se fait de fausses images de Dieu.
Et de fausses croyances.
De fausses croyances. Donc par exemple, dans cette partie...
Donc on perd le but, on perd la direction.
Ben, vous voyez par exemple l'histoire de ces femmes que j'évoque dans la partie détoxifier la foi. Hein, dans la littérature de la fin du 19e siècle, des auteurs comme Léon Blois, comme Joris Carl Huysmans, qui nous laissent... penser, et c'est quand même très embarrassant, que le but de la vie chrétienne, c'est de souffrir, c'est de ce personnage de Véronique chez Léon Blois, dans Le Désespéré, qui se défigure, c'est horrible, pour essayer de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu n'a jamais demandé ça à personne. Hein. Donc, en fait, j'utilise en particulier cette belle figure que nos auditeurs connaissent peut-être déjà, de Mère Geneviève Gallois, qui est entrée au monastère à l'âge de... Elle avait une petite vingtaine d'années, si je me souviens bien, en tout cas en 1917. C'était une grande artiste déjà, et elle s'est convertie, elle a reçu le baptême, puis elle est entrée chez les bénédictines de la rue Monsieur à Paris. Et elle a fait fausse route, parce qu'elle baignait dans un climat aussi très jansénisant, hein, où on cultivait ce côté très sombre de la vie chrétienne dans les communautés catholiques. Et elle pensait que le but de sa vie religieuse, de sa vie monastique, c'était de se sacrifier. Mais se sacrifier, pas au sens d'être généreux, d'être dans l'offrande, mais au sens de se détruire, de s'anéantir. Elle l'écrit, je cite quelques-uns de ces textes dans le livre. C'est effrayant, mais c'est pas sorti de nulle part tout ça. Cette pauvre femme, elle est jeune, elle reçoit ce qui lui est transmis dans les communautés chrétiennes et elle fait fausse route. Et heureusement, le Seigneur va lui envoyer, par la médiation de la petite Thérèse et d'un autre moine, une lumière. Mais il va falloir attendre une vingtaine d'années pour qu'elle puisse découvrir, 20 ans plus tard, qu'elle n'était pas appelée à ça, qu'elle n'était pas appelée à sacrifier son art, à renoncer à ses talents, à son potentiel. Alors le Seigneur lui envoie un collectionneur d'art qui va lui demander de se remettre au travail. Et en même temps, à peu près en même temps, par la voix de la petite Thérèse, elle découvre la spiritualité de l'abandon et elle découvre que la vie avec Dieu, ce n'est pas d'abord en baver, c'est d'abord se laisser baigner dans l'amour de Dieu. Elle a des images incroyables, pleines d'audace.
Et c'est un peu le cœur de cet ouvrage, au fond.
Exactement.
Que diriez-vous aux auditeurs qui vous écoutent pour bien comprendre, au fond, le but de votre présence ici, dans cette série, c'est que Dieu nous veut du bien.
Dieu nous veut du bien.
Et il est bon.
Il est la bonté même et il veut que nous nous baignions dans cette bonté. Je ne sais pas si nos auditeurs imaginent, mais saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, commun de l'Église, s'il vous plaît, hein, qui enseignait, c'est dans la deuxième partie de la somme de théologie, mais si vous allez mal, si vous n'allez pas bien, si vous êtes triste, pour lutter contre la tristesse, faites-vous plaisir, prenez un bain. Dormez, reposez-vous. Hein. Mais ici, à Lourdes, quand même, on se dit, mais le symbolisme de la source, du bain. On baigne les pèlerins dans l'eau de la source complètement, on les immerge. Pourquoi ? Bah, pour rappeler notre baptême. Mais enfin, est-ce que nous avons perdu de vue que être baptisé en grec, ça veut dire être baigné, être plongé en Dieu qui est la bonté même, et que nous pouvons nous détendre dans ce bain, hein, que nous pouvons nous laisser, je dirais presque, décontracter par le Seigneur qui nous aime et qui nous veut du bien. Alors dans ce passage du livre, je joue beaucoup sur ce symbolisme du bain, mais celle qui m'a mis sur la piste en quelque sorte, hein, c'est Mère Geneviève Gallois, cette bénédictine géniale qui dit, bah, après sa deuxième conversion en quelque sorte, quand elle comprend que Dieu veut du bonheur pour elle, elle dit, ben moi je me baigne en Dieu, je clapote en Dieu, comme
c'est
elle dit.
C'est joliment dit, oui.
C'est mignon, non ?
C'est mignon, donc Dieu nous veut du bien, donc ça sent aussi prendre et accepter ces moments aussi de bien-être.
De détente et de décontraction.
Détente. Et savoir aussi oser prendre ces temps aussi de repos, quelque part, un repos en Dieu.
Un repos en Dieu, une détente en Dieu, c'est aussi ça, l'oraison, la prière, la célébration liturgique.
Alors reposez-vous, chers auditeurs, dès maintenant peut-être une onction de repos, une onction de paix, et puis peut-être aussi une décision. Voilà, vous êtes dans la dépression, vous êtes dans une fatigue physique ou morale, eh bien on écoute les conseils du docteur Sylvain de Tocque, de frère Sylvain de Tocque dominicain, et je vous invite bien sûr à découvrir, c'est un petit trésor, ça se lit facilement, précieux, voilà, au bon plaisir de Dieu, l'évangile du bien-être. À demain.
À demain.
Et même heure.
Merci.